إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous, أهلا وسهلا ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات، حياكم الله على طاعتي. Donc nous allons poursuivre l'explication du livre intitulé « Les six fondements » de l'éminent savant Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdel Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'a. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, la semaine dernière, nous avons fait l'explication du quatrième fondement. Et aujourd'hui, incha'Allah, nous allons faire l'explication du sixième, ou plutôt du cinquième, et du sixième fondement. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter dans cette tâche. Donc l'auteur, rahimahullah, dans ce cinquième fondement, il parle des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque l'auteur il a parlé de ce sujet, il a parlé de ce sujet après avoir mentionné la connaissance des savants. Et il y a une faïda, un profit qu'on tire de ce procédé. L'auteur, rahimahullah, il a parlé des alliés d'Allah, subhanahu wa ta'ala, après les savants, car les savants sont les alliés d'Allah, qui appellent les serviteurs à obéir à Allah, subhanahu wa ta'ala, et à son prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ils appellent également à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils appellent aussi à l'union dans la religion et à l'obéissance au gouverneur dans le bien. Et ce fondement qui est la connaissance des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ceux qui leur ressemblent parmi les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala est mentionné dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on le retrouve aussi en détail dans les paroles de nos pieux prédécesseurs. Et ceci nous montre, ikhwani fillah, l'importance de connaître la différence entre les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala et les alliés du shaitan. Et certains savants ont même consacré des livres spécifiques à ce sujet, comme l'a fait notamment l'éminent savant Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah, Il a écrit un livre intitulé « La différence entre les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala et les alliés du diable ». Et à l'époque de l'auteur, donc à l'époque de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdel Wahhab rahimahullah, il y avait beaucoup de gens qui prétendaient être des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'en vérité, ce n'étaient que des pervers. Et l'auteur montrait leurs égarements dans certains de ses livres. Tout ceci pour montrer aux gens que ce ne sont pas des alliés d'Allah, mais plutôt des alliés du diable. Et ce sujet s'est aggravé à notre époque, car beaucoup de gens prétendent être des alliés d'Allah, alors qu'en vérité, ce n'est pas le cas. Beaucoup de gens que l'on appelle aujourd'hui wali d'Allah, c'est-à-dire alliés d'Allah, sont des gens qui appellent au shirk, ou parfois des gens qui appellent clairement les gens à leur propre adoration. Et certaines personnes, nas'alullah al-afiyah wa salama, leur attribuent certaines choses de la seigneurie, comme la création, ou le fait de faire descendre la pluie ou autre. Mais dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a clarifié qui sont les alliés d'Allah et il a mentionné leurs caractéristiques. Et parmi les sectes qui se sont égarés dans ce fondement, il y a premièrement la secte des soufis. Et avant de mentionner leur égarement dans ce fondement, il faut savoir que les soufis sont de plusieurs types. Vous avez certains parmi eux qui innovent dans la religion. Leurs innovations ne font pas sortir de l'islam. Comme par exemple le fait de faire des invocations en groupe, ou de lire le Coran en groupe, ou encore de fêter ce qu'ils appellent le Maulid. Et vous avez certains d'entre eux qui font des innovations qui sortent la personne de l'islam. Et ces soufis-là, on les appelle les soufis extrémistes. Parmi leurs égarements, il y a le fait qu'ils vouent l'adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a aussi le fait qu'ils pensent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est vivant. Et concernant ce fondement, les soufis extrémistes ont élevé ceux qu'ils appellent les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus des prophètes, de telle sorte qu'ils leur attribuent certaines choses de la seigneurie, et de telle sorte aussi qu'ils leur vouent directement l'adoration. Et parmi les ambiguïtés qui les ont menés à cela, ils vont te dire que les alliés d'Allah ont ce qu'on appelle al-karamat. Ils ont ce qu'on appelle des prodiges. Et les prodiges sont des événements miraculeux sortant de l'ordinaire. Et donc, parmi les karamat, les prodiges qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur aurait donné, le fait qu'ils peuvent créer, donner la vie, donner la mort, et même faire descendre la pluie. Et il n'y a pas de doute que c'est un égarement évident. Et la croyance des gens de la sunna concernant les prodiges, c'est qu'ils affirment que ces choses-là existent, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les met entre les mains de ses alliés, secourant ainsi sa religion ou ses affaires d'ici-bas. Et aussi les gens de la sunna disent que les prodiges des alliés n'arrivent pas au niveau des miracles des prophètes et des messagers. Et nous pouvons citer certains prodiges venant d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses alliés. Parmi eux, il y a l'histoire des gens de la caverne. Il y a aussi l'histoire de Jurayj, le moine, aussi l'histoire de Maryam, alayhi salam, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonna d'agiter le tronc afin de faire tomber des dattes fraîches, et bien d'autres parmi les prodiges qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux pieux et à ses alliés. Et aussi les gens de la sunna disent que ces prodiges seront présents dans cette communauté jusqu'au jour dernier. La deuxième secte qui s'est égarée dans ce fondement, c'est la secte des chiites. Car d'après eux, les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils visent par cela leur imam, selon eux, ils ne se trompent jamais et ne font pas de péché. Et ceci est sans aucun doute un égarement flagrant et manifeste. Et cela vient même contredire le hadith de Anas ibn Malik, radiallahu anhu, qui est rapporté par l'imam Ahmad dans son Musnad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tous les enfants d'Adam font des erreurs, et le meilleur d'entre eux est celui qui se repent. Mais d'après eux, leurs imams ne se trompent jamais. Nas'alullah al-afiyah wa salam. Donc l'auteur, il nous dit, le cinquième fondement est qu'Allah subhanahu wa ta'ala caractérise clairement ses alliés et les distingue de ceux qui leur ressemblent parmi les ennemis d'Allah, les hypocrites et les pervers. Il est important, premièrement, de connaître la définition de l'allié. Et l'une des meilleures définitions dans ce sujet est la définition de l'éminent savant Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son livre intitulé « La différence entre les alliés d'Allah et les alliés du diable ». Et il dit que l'allié, donc le wali, c'est tout croyant pieux. Il dit, rahimahullah, que le wali, donc l'allié, c'est tout croyant pieux. Et cette définition est tirée du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset 62 et 63 de sourate Yunus: Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon la traduction: en vérité, les alliés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ne seront point affligés, ceux qui croient et craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous voyons que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que les alliés d'Allah sont ceux qui croient en lui et le craignent. Et toute personne qui a ces caractéristiques est un allié d'Allah. Et plus la personne est pieuse, et plus sa foi est forte, et plus son alliance avec Allah subhanahu wa ta'ala est forte. Et donc ce n'est pas une condition pour être un allié d'Allah d'avoir des prodiges, tout comme ce n'est pas une condition de ne pas faire de péché. Ensuite l'auteur il dit, il suffit à ce sujet d'un verset de la sourate Ali Imran, qui est sa parole: قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللَّهُ. Dis, si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera. Ce verset a été appelé par certains pieux prédécesseurs le verset de l'épreuve. Car la cause de la révélation de ce verset est qu'un groupe de personnes a prétendu aimer Allah. Et donc Allah les a testés par le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne une caractéristique du wali. Et cette caractéristique est que le wali suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette caractéristique nous montre que beaucoup de ceux qui se prétendent comme étant des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala à notre époque, en vérité, ce n'est pas le cas. Car tu trouves que certains d'entre eux ne prient pas. Certains pensent qu'ils ont le droit de désobéir à Allah, car ils ont atteint le degré de certitude. Et on trouve même, comme ceci est connu, chez certains soufis extrémistes, que lorsqu'un élève veut se marier, il va annoncer la nouvelle à son enseignant, et son enseignant lui ordonne de lui ramener sa future épouse avant le mariage, afin de consommer le mariage avant même que l'époux consomme. Car selon eux, cela amène la bénédiction d'Allah. Et tout ceci nous montre que ce sont loin d'être des alliés d'Allah. Car si cela était vraiment le cas, ils auraient suivi le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Ensuite, l'auteur, il dit, ainsi qu'un verset de la sourate Al-Ma'ida, qui est sa parole, « Ya ayyuha alladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna » Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, donc il dit selon la traduction, « Ô vous qui croyez, si certains d'entre vous abjurent leur religion, Allah suscitera d'autres hommes qu'il aimera et qu'il aimeront. » Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné certaines caractéristiques de l'allié. Mais pour voir toutes ces caractéristiques, il faut lire le verset en entier. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit selon la traduction, « Ô vous qui croyez, si certains d'entre vous abjurent leur religion, Allah suscitera d'autres hommes qu'il aimera et qu'il aimeront, humbles envers les croyants, durs et fiers envers les mécréants, luttant sur le sentier d'Allah et ne craignant aucunement les reproches de ceux qui les blâment. Telle est la grâce d'Allah qu'il accorde à qui il veut. Allah est immense et omniscient. » La première caractéristique qu'Allah a mentionnée, c'est qu'ils aiment Allah et Allah subhanahu wa ta'ala les aime. Et cet amour qu'ils ont pour Allah se traduit par des actions. Et ce n'est pas seulement une prétention, car certains prétendent aimer Allah, mais ils ne suivent pas sa voix. Et ils ne suivent pas la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car d'après ces gens-là, l'amour est dans le cœur. Et parmi les caractéristiques des alliés, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans ce verset, c'est qu'ils sont humbles envers les croyants et durs et fiers envers les mécréants. Et malheureusement, chez certains musulmans, à part ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde, c'est le contraire. Ils sont durs et fiers envers les croyants et humbles avec les mécréants. Il n'y a pas de doute que celui qui se comporte de la sorte a un problème dans sa foi. Le fait aussi que les alliés d'Allah luttent sur le sentier d'Allah et ne craignent aucunement les reproches de ceux qui les blâment. Ensuite, l'auteur, il dit, et un verset de la sourate Yunus, qui est sa parole, « Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun » En vérité, les alliés d'Allah seront à l'abri de toute crainte. Ils ne seront point affligés, ceux qui croient et qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans le début de ce verset, il y a la bonne annonce pour les alliés d'Allah. Car Allah nous dit que ses alliés seront à l'abri de toute crainte et ne seront point affligés. Et ensuite il mentionne les caractéristiques de ses alliés qui sont la foi et la crainte. Ensuite, l'auteur finit ce fondement par sa parole. Il est advenu par la suite, chez la plupart de ceux prétendant avoir de la science et faire partie des guides parmi la création et des protecteurs de la législation, que pour faire partie des alliés d'Allah, il faut délaisser le suivi des messagers. Et quiconque les suit n'en fait pas partie. Il faut aussi délaisser la lutte sur le sentier d'Allah. Et quiconque lutte n'en fait pas partie. Il faut aussi délaisser la foi et la piété. Et quiconque persévère sur la foi et la piété n'en fait pas partie. Ô Seigneur, nous implorons ton pardon et ta protection. Tu réponds certes à l'invocation. Ensuite, l'auteur, pour finir, il a terminé cette magnifique épître par la réfutation d'une ambiguïté. Il dit, rahimahullah, le sixième fondement est la réfutation de l'ambiguïté établie par le diable. Afin que le Coran et la Sunna soient délaissés au profit des opinions et des passions diverses et divergentes. Cette ambiguïté suggère que le Coran et la Sunna ne pourraient être compris que par un mujtahid mutlaq. Celui-ci est décrit par des qualités qui ne se retrouvent peut-être même pas complètement chez Abu Bakr et Omar. Si l'homme n'est pas ainsi, il doit alors obligatoirement se détourner du Coran et de la Sunna, sans aucun doute, ni aucun problème. Et quiconque y cherche la bonne voie est hérétique ou fou, au vu de la difficulté à les comprendre. Gloire à Allah qui a donné tant de preuves dans la législation et dans les faits, qui réfute cette ambiguïté maudite sous différents aspects, à tel point que ceci compte parmi les choses nécessairement connues de tous, seulement la plupart des gens ne savent pas. Ensuite, l'auteur il a mentionné le verset dans Sourate Yassim, le verset donc 7 à 11. Donc l'auteur il conclut son épître en réfutant une ambiguïté. Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi dans cette communauté des savants qui répondent et réfutent les ambiguïtés des gens du faux. Car les gens du faux ont de nombreuses déviances et ambiguïtés, et ceci en tout temps et à toute époque. Et donc il faut les réfuter avec science et preuve, car la réfutation doit obligatoirement se faire avec science et preuve, et non pas avec des insultes et des dénigrements. Car comme les savants l'ont mentionné, l'insulte est l'arme de toute personne faible. Car il est très facile d'insulter et de dénigrer. Tout le monde est en capacité de le faire. Mais par contre, réfuter avec science, ceci n'est pas à la portée de tous. Et ici, je profite de l'occasion, ikhwani fillah, pour à mon tour réfuter une ambiguïté qui est très répandue, surtout chez certains francophones. Cette ambiguïté est que les réfutations et les mises en garde divisent les gens et n'apportent que du mal. Et certains vont même te dire que les mises en garde et les réfutations sont interdites, ou que cela ne fait pas partie de la science. Et en règle générale, les gens qui mentionnent ce type de paroles et qui les véhiculent se divisent en deux catégories. La première catégorie, c'est l'ignorant. Et le concernant, les savants de la Sunna nous disent que l'on doit lui enseigner, car la cause de sa parole est l'ignorance. Nous devons donc lui apporter les preuves qui montrent la fausseté de cette parole et patienter avec lui. La deuxième catégorie est une personne qui connaît le sujet, mais qui a un but caché derrière cette parole, car beaucoup de personnes qui disent ce genre de propos en vérité, ils veulent préparer le terrain, car ils savent pertinemment qu'ils ont de grosses erreurs et que les gens de la Sunna vont finir par mettre en garde contre eux et dévoiler leurs erreurs et ambiguïtés. Et donc, comme ils ont la connaissance de cela, ils disent à leurs suiveurs que les mises en garde divisent la communauté, et ceux qui mettent en garde et font des réfutations sont des fauteurs de troubles, et qu'il ne faut pas les suivre, car ils détruisent et ne construisent pas, de telle sorte qu'ils inculquent cela à leurs suiveurs, pour que lorsque quelqu'un parmi les gens de la Sunna viendrait à mettre en garde contre lui et clarifier ses erreurs, il n'aura plus qu'à dire « Ne vous ai-je pas dit que ces gens-là sont des fauteurs de troubles ? Ne vous ai-je pas dit que ces gens-là ne construisent pas ? Ne vous ai-je pas dit que ces gens-là détruisent ?» C'est pour cela, ikhwani fillah, que nous allons répondre à cette ambiguïté avec science bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. La première chose qu'il faut savoir est que les savants sont unanimes que la base de la science religieuse, c'est le Coran. Et donc, si c'est le cas, il est important de regarder est-ce qu'il y a des mises en garde dans le Coran. Et la réponse à cette question et que le Coran est rempli de mise en garde et de réfutation. En effet, dans de nombreux versets, Allah subhanahu wa ta'ala réfute les chrétiens et les juifs. Et donc, si on sait cela, on peut déduire que les réfutations et les mises en garde ont une base dans le Coran et qu'ils font partie de la science et que ceci ne rentre pas dans la division. Le deuxième point est que les savants sont unanimes concernant l'obligation de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc important de regarder dans la sunna s'il y a des réfutations et des mises en garde. Et la réponse à cette question est que la sunna est remplie de mises en garde et de réfutations. Par exemple, dans certains ahadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde contre la secte des Khawarij en disant que ce sont des chiens de l'enfer, tout comme il a mis en garde sa communauté contre le Dajjal. Et en prenant connaissance de cela, on voit clairement qu'il y a des mises en garde dans la sunna. Mais après avoir entendu cette parole, certaines personnes pourraient se demander: est-ce que quelqu'un parmi les gens de la sunna m'a précédé dans le fait que le Coran et la sunna est rempli de mises en garde? Et en réponse à cette question, nous allons lire la traduction rapprochée d'une réponse de l'éminent savant Ash-Shir Salih Al-Fawzan concernant ce sujet. Il dit, je cite: « Ô mon frère, lis le Coran. Combien y a-t-il de réfutations contre les polythéistes et les hypocrites et ceux qui se sont trompés? Allah réfute ces gens-là dans de nombreux versets. Le prophète, dans les ahadiths, réfute. Aussi, les savants parmi les pieux prédécesseurs ont réfuté. Il doit y avoir des réfutations envers les gens du faux, car ceux-ci rentrent dans le conseil envers l'islam et les musulmans. Et ne nous taisons pas sur le faux. » Fin de citation. Donc on comprend de la parole du Cheikh, Hafidhahullah, qu'il y a de nombreuses réfutations dans le Coran et dans la Sunna, et que ça ne rentre en aucun cas dans la division. Mais comme on l'a dit précédemment, les mises en garde et les réfutations doivent être faites avec science. Et ce qui est étrange est que ceux qui refusent d'écouter et de prendre en considération les mises en garde dans la religion, ce n'est pas forcément le cas dans les choses de la vie mondaine. Imaginons que Khalid va chez un médecin qui est incompétent et qui ne connaît pas son travail. Et il lui a donné des médicaments qui n'ont rien à voir avec sa maladie. Et Khalid, en se renseignant, il se rend compte que ce médecin avait fait ça avec plusieurs patients et qu'il n'est pas à son premier coup d'essai. Après cela, il décide de mettre en garde contre ce médecin et de prévenir les musulmans de son mal. Ici, la plupart des gens raisonnés suivront la mise en garde de Khalid, surtout s'il ramène des preuves. Et si les gens acceptent cette mise en garde, alors que c'est pour une chose de la vie mondaine, que dire des mises en garde qui ont pour but de protéger la religion des musulmans? Ils sont certes plus en droit d'être acceptés et pris en compte. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la clarté dans notre religion. Donc l'auteur, il nous dit, le sixième fondement est la réfutation de l'ambiguïté établie par le diable afin que le Coran et la Sunna soient délaissés au profit des opinions et des passions diverses et divergentes. Cette ambiguïté suggère que le Coran et la Sunna ne pourraient être compris que par un mujtahid mutlaq. Celui-ci est décrit par des qualités qui ne se retrouvent peut-être même pas complètement chez Abu Bakr et Omar. Si l'homme n'est pas ainsi, il doit alors obligatoirement se détourner du Coran et de la Sunna sans aucun doute, ni aucun problème. Et quiconque y cherche la bonne voie, hérétique ou fou, au vu de la difficulté à les comprendre. Donc ici, l'auteur nous mentionne cette fameuse ambiguïté, qui est de délaisser le Coran et la Sunna au profit des opinions et des passions diverses. Car le Coran et la Sunna sont très difficiles, voire impossibles, à comprendre. Et seuls des gens très très savants, qui connaissent tout de la religion, peuvent comprendre le Coran et la Sunna. Il n'y a pas de doute que cette parole est un égarement évident. Et il suffit pour nous apercevoir de la fausseté de cette parole de revenir au Coran et à la Sunna. Prenons par exemple le verset 22 de Surat Al-Qamar. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ » Il dit, selon la traduction, « Nous avons facilité la lecture et la méditation du Coran. Est-il quelqu'un pour en tirer une exhortation ?» Certains parmi les savants du tefsir ont dit concernant ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a facilité la lecture du Coran, sa mémorisation et la compréhension de ses sens et sa méditation pour quiconque voudrait en tirer une exhortation. Et donc ce verset, avec l'explication de certains exégèses, vient annihiler cette ambiguïté. Et cette ambiguïté, ikhwani fillah, est très dangereuse, car elle peut revenir à dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est injuste. Car dans le Coran, on y trouve que celui qui suit le Coran ira au paradis. Et celui qui délaisse le Coran sera châtié. Donc celui qui dit qu'il faut délaisser le Coran car il est impossible de le comprendre, cela reviendrait à dire qu'Allah va châtier des personnes car ils n'ont pas compris le Coran. Et il n'y a pas de doute que ceci est très grave. Et en plus de cela, ces gens ont fermé la porte à la compréhension du Coran. Car selon eux, même celui qui est arrivé à un haut degré dans la science ne peut pas le comprendre. Et malheureusement, cette ambiguïté est encore présente à notre époque. Le but de cette ambiguïté est de renvoyer les gens à la religion des ancêtres, voire même au suivi aveugle. Et comme dans le Coran, il y a le contraire de cela, alors ils ont voulu fermer la porte aux gens concernant la compréhension du Coran. Ensuite, l'auteur il nous dit « Gloire et louange à Allah qui a donné tant de preuves dans la législation et dans les faits qui refutent cette ambiguïté maudite sous différents aspects, à tel point que ceci compte parmi les choses nécessairement connues de tous. Seulement la plupart des gens ne savent pas. » Ensuite, l'auteur il mentionne le verset dans Sourate Yassine, selon le sens, en effet, la parole contre la plupart d'entre eux s'est réalisée. Ils ne croiront donc pas. Nous mettrons des carcans à leur cou, et il y en aura jusqu'au menton. Et voilà qu'ils iront tête dressée, et nous mettrons une barrière devant eux, et une barrière derrière eux. Nous les recouvrirons d'un voile, et voilà qu'ils ne pourront rien voir. Cela leur est égal que tu les avertisses, et que tu ne les avertisses pas. Ils ne croiront jamais. Tu avertis seulement celui qui suit le rappel et craint le tout miséricordieux, malgré qu'il ne le voit pas, annonce-lui un pardon et une récompense généreuse. Ensuite, l'auteur il finit cette épître en disant « Voici la fin de cette épître. Les louanges sont à Allah, Seigneur de l'univers, qu'Allah couvre d'éloges et salue de manière abondante notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons, jusqu'au jour de la rétribution. »